de À vous les studios sur votre radio Escapade, un numéro particulier pour ce jeudi 19 septembre 2019. Nous ne parlerons pas d'un festival, nous ne recevons pas un groupe pour une sortie d'album ou une compagnie pour une sortie de résidence. Aujourd'hui, nous recevons un homme comme un autre, un homme qui a toutefois choisi de mettre en lumière d'autres hommes et d'autres femmes. Henri Gourdin, biographe de renommée, est avec nous aujourd'hui sur Radio Escapade. Nous parlerons de son métier, de ses œuvres et tout particulièrement des Hugo, avec un zoom sur Jean Hugo, le peintre méconnu. Pourquoi raconter la vie des autres? Comment la raconter? Jean Hugo, qui était-il? Pourquoi seul le nom de Victor Hugo a-t-il vraiment marqué les mémoires? Comment rendre hommage? Comment rendre une vie immortelle? Comment ne pas laisser une vie dans l'oubli? Autant de questions que je me pose en ce moment avec vous. Les réponses sont à suivre, à découvrir en compagnie de Henri Gourdin sur votre radio Escapade. À tout de suite. Bonjour Henri Gourdin.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous aujourd'hui dans les studios.
Tout le plaisir est pour moi.
Biographe, le médium de la mémoire, celui qui recueille la parole et assure la transcription, fixe un souvenir. Est-ce que c'est une définition qui vous convient, Henri?
Oui, tout à fait. La parole, avec une petite, un petit rectificatif, c'est-à-dire qu'on recueille non seulement la parole, mais aussi les témoignages, les correspondances, enfin, tout ce qui concerne la personne dont on veut parler.
Et quelle va être la différence entre une autobiographie et une biographie?
Ah là, la différence, elle est énorme. Comme son nom l'indique, l'autobiographie, hein, avec le préfixe « auto », c'est la biographie de la personne qui écrit, de l'auteur. Donc elle va fouiller dans sa vie, en commençant par son enfance, et dérouler sa propre vie, contrairement au biographe qui, lui, déroule la vie d'une personne autre que lui-même.
Et il y a Nelson Mandela qui, un jour, a dit « Il existe un doux euphémisme pour l'autosatisfaction, on nomme cela une autobiographie, et l'auteur y insiste souvent sur les défauts des autres pour souligner combien ses propres réussites sont dignes d'éloges. » Est-ce qu'il y a ce côté-là aussi où, du coup, le biographe va porter un regard beaucoup plus neutre sur la personne?
Merci déjà de cette citation que je ne connaissais pas. Oui, le biographe, vous savez, quand on a des biographies, on n'a encore rien dit. Il y a des écoles au sein de la biographie, des tendances, des genres. Et il y a des biographes qui s'efforcent de donner l'image la plus belle possible de leur sujet. Parce que ça fait vendre, parce que c'est ce qu'un certain public veut entendre et lire.
Idéaliser une personne, en
voilà,
quelque sorte,
exactement.
Dans le bien comme dans le mal.
Voilà, n'en décrire que les aspects les plus sympathiques. Ce n'est pas du tout mon genre, je vous le dis tout de suite. Au contraire, moi, si vous regardez un peu le catalogue de mes sujets, vous verrez que ce sont généralement des inconnus. Et ce qui m'importe, c'est de porter à la connaissance d'un public, si possible large, mais bon, d'un public, des gens qui méritent d'être connus et qui ne le sont pas.
Et comment est-ce qu'on choisit de raconter la vie des gens?
Ah, comment vous voulez dire, comment on choisit le sujet?
Non, comment est-ce que vous êtes devenu biographe, en fait?
Ah, ça c'est une question, une vaste question. Ben écoutez, moi j'ai toujours aimé écrire. L'écriture c'est un peu mon travers. Et il se fait que j'étais, parallèlement, je faisais une carrière plutôt dans l'ingénierie, que donc c'était un peu le roman, ne s'y prêtait pas. Vous savez, le roman, il faut vraiment être dans un autre monde. On ne peut pas passer de l'écriture à la famille, au boulot, à la voiture. Non, il faut y être tout le temps. Et comme au début de ma carrière, de ma carrière d'écrivain, je ne pouvais me consacrer à l'écriture que par petite tranche de 2-3 heures, bon, il se fait que la biographie était la plus appropriée, quoi.
Et comment est-ce qu'on choisit les gens dont on va raconter l'histoire? Vous avez parlé de gens méconnus.
Oui, c'est une excellente question. Comment je choisis les gens? Je pense que pour faire une biographie qui vaille la peine, pas simplement mettre un livre de plus sur les rayons d'une librairie, il faut avoir des affinités, remarque son personnage. Moi, mes personnages, ce sont des coups de cœur que j'ai pour eux. Là, commencer par, c'est le cas tout à fait pour Jean Hugo, on aura l'occasion d'y revenir.
Oh, mais... Oui, ça va être le thème principal voilà. de cette émission. Et comment est-ce qu'on procède alors pour écrire une biographie? Est-ce qu'il y a toute une partie qui est basée sur des témoignages, sur des archives? Est-ce qu'il y a une partie qui devient romancée aussi ou pas? On n'est que basé sur uniquement basé sur des faits?
Non, il y a tout un volet, évidemment, de recherche. Parce que surtout dans mon cas, où je fais des biographies de gens qui n'en ont pas encore, je ne peux pas repartir de biographies précédentes. Il faut que j'aille à la pêche, que je passe des journées entières dans des bibliothèques, que je consulte. Maintenant, c'est un peu plus... j'allais dire un peu plus facile par Internet, mais c'est plus facile, mais c'est beaucoup plus dangereux parce que la véracité n'est pas toujours garantie. Donc il y a tout un volet de recherche qui peut parfois prendre plusieurs années. Hein, sur les Hugo, j'y suis resté plusieurs années. Mais après, les gens vous disent toujours, quand vous faites des signatures ou des conférences, les gens vous disent « Mon Dieu, comme c'est extraordinaire, toute cette documentation que vous avez dû rechercher, comment avez-vous fait ?» etc. Bon, en fait, évidemment, au début, c'est un peu plus difficile, mais après... À mesure qu'on progresse dans le métier, je vais utiliser ce mot, le biographe c'est un métier, il y a des ficelles, on sait un peu mieux comment et où aller chercher. Et par contre, moi je pense avec le recul du temps maintenant et en avançant dans la carrière, que la partie la plus difficile, peut-être pas la plus longue, mais encore qu'il faut y mettre du temps, la partie la plus délicate et la plus complexe, c'est d'arriver à partir du matériau qu'on a rassemblé, une fois qu'on a ce matériau sous la main, d'arriver à faire sentir la personnalité qui est derrière ce matériau. Et là, oui, c'est pour ça, d'ailleurs, je retombe un peu sur mes pattes par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, il faut avoir des affinités avec son sujet. Mais c'est aussi là qu'on distingue le biographe qui arrive à transmettre, à faire comprendre son personnage. Et là, comme vous dites, il faut parfois dépasser le matériau, le strict matériau. Il faut mettre en scène, il faut imaginer un petit dialogue, même si le dialogue n'est pas exactement dans les sources. Enfin, voilà, il y a tout. Et la difficulté, moi, je pense, c'est qui fait la différence entre un biographe quelconque, un bon documentaliste, et... le biographe inspiré, on va dire, c'est ce côté du travail. Quoi.
Et vous avez commencé quand?
Ah, j'ai commencé ma première biographie, c'était en 1998. Donc oui, mais je me rends compte en vous en parlant que ça fait un peu plus de 20 ans maintenant.
Ça passe, ouais. ça passe. Et du coup, dans la biographie, vous rapportez la vie de cette personne, sa naissance, sa famille, son parcours, etc. Mais vous, c'est ce que vous exprimiez là, c'est que vous essayez aussi de passer ses émotions, ses états d'âme, ses défauts comme ses qualités, ses joies, ses tristesses. C'est extrêmement difficile à raconter ça.
Oui, effectivement, c'est le côté difficile, beaucoup plus difficile et beaucoup plus subtil que le côté rassembler la documentaire, que le côté documentaire, on va dire. Et effectivement, et puis moi je suis un peu, j'ai aussi une particularité, enfin c'est un défi que je me suis donné dans mon travail de biographe, c'est tout de même de faire ressortir une vérité, de ne pas relayer les légendes ou les rumeurs qu'on voit partout sur tel ou tel personnage, mais d'aller derrière, de démonter la légende déjà. Alors je pense qu'on va reparler des Hugo, c'est vraiment, oui. C'est l'exemple type. Donc, démonter la légende, et je peux vous dire que souvent, il n'y a pas grand rapport. Il y a une différence fantastique entre la légende, enfin, ce qu'on sait en général d'une personne et la réalité de cette personne. Et donc ça, oui, à la fois chercher une vérité et puis arriver à transmettre, à mettre en mots et en phrases une personne qui est souvent d'une une grande complexité, quoi.
Et comment vous expliquez que les gens s'attachent à ces légendes?
Oh, ça, vous savez pourquoi les gens écoutent France Inter plutôt que Radio Escapade. C'est un peu ça, les gens, bon, les gens en général, je veux dire en général.
Ah oui, oui, moi même, comprise.
Et moi aussi, on n'a pas trop de temps d'aller contester tout ce qu'on entend. On le prend pour argent comptant. Et puis, il y a tout de même... Non, il faut dénoncer tout de même, puisque quand on a l'occasion, comme ici, il faut dénoncer le travers d'une certaine presse, qui est à la fois radiophonique, presse écrite, etc., qui donne aux gens ce que les gens ont envie d'entendre, qui n'essaye pas justement de... Le journalisme d'investigation, il est encore là, mais bon, il se perd. Quoi.
Il se perd petit à petit. Henri Gourdin, j'allais vous appeler Jean-Hugo, ça ne va pas être facile. Vous avez ramené de la musique. Est-ce que vous pouvez nous parler du choix que vous avez fait pour cette émission aujourd'hui?
Alors, cette une manière de commencer à parler de Jean Hugo, puisque voilà un homme qui a eu, je vous la fais courte, mais voilà un homme qui a eu deux existences successives. Il a d'abord été peintre, décorateur de théâtre à Paris pendant 10 ans, entre sa démobilisation en 1919 et son départ pour l'Hérault, pour la Camargue, voilà, en 1929, 10 ans exactement. Où il était, par sa femme d'ailleurs, et il a épousé à ce moment-là une artiste de la mouvance de Cocteau et compagnie, qui était Valentine Gros, une grande artiste d'ailleurs. Bon, et donc il était marié à cette Valentine, et il était à Paris avec elle. Et dans des milieux à la fois très mondains et de, on va dire, de l'art d'avant-garde. Et notamment, c'est dans ce contexte qu'il a rencontré ce qui allait devenir, enfin ce n'était pas encore, mais ce qui allait devenir le groupe des six, connu comme le groupe des six en musique, dont Eric Satie, qui est probablement l'un des plus connus, enfin non, parce qu'il y a tout de même dans le groupe des six, il y a tout de même Millau, Poulenc, Honegger, bon voilà. Et donc je pensais qu'on pouvait illustrer notre petit parcours autour de Jean Hugo par les Gymnopédies, qui sont un des morceaux les plus émotionnants, on va dire, ou les plus simples du grand musicien qui était Eric Satie.
Eh bien, je vous propose qu'on écoute le numéro 1, du coup, et qu'on se retrouve juste après pour passer un petit peu à Jean Hugo, justement. Eric Satie, gymnopédie numéro 1. Vous écoutez Radio Escapade dans un nouveau numéro de À vous les studios. Et je reçois aujourd'hui Henri Gourdin, biographe. Et nous allons parler un petit peu maintenant des œuvres que vous avez pu écrire, Henri. Et notamment en 2016, vous publiez aux éditions Grasset 480 pages dédiées au Hugo, 2 siècles, 5 générations, 18 portraits. Alors on y retrouve Victor Hugo, mais aussi ceux qui le précède et celles et ceux qui le suivent. Qu'est-ce qui vous a touché dans cette famille pour pouvoir en faire 480 pages avant de nous consacrer à Jean Hugo en particulier?
Il faut que je vous retrace alors, que je vous résume en tout cas l'histoire de ma relation avec les Hugo. C'est une histoire qui démarre autour de l'an 2000, voilà, au tournant du siècle. En prévision de l'année 2002, qui, comme chacun sait, est la commémoration de la naissance du grand Victor Hugo. Ce siècle avait 2 ans, voilà, on a appris ça à l'école. Je commençais à être repéré dans le milieu de la biographie, des maisons d'édition nationales. Donc on m'a demandé de préparer une biographie de Victor Hugo. Tous les éditeurs, quand il y a une commémoration qui arrive, ils fourbissent leurs armes. Bon, je me suis un peu renseigné, j'ai vu que ma biographie eût été la 24e. Bon, comme vous avez compris, ce n'est pas tellement mon genre. Je suis plutôt à sortir de l'ombre des personnages qui méconnus. Entre-temps, à la fin de l'année commémorative, ça aurait été la 36e, donc je n'ai pas vraiment de regretter. Et par contre, en tournant un peu autour de Victor Hugo, en me renseignant sur lui, je découvre qu'il a une fille Adèle, qui est un peu connue comme Adèle H, le film de François Truffaut, que cette fille Adèle a sacrifié sa vie à son père, qu'elle avait une personnalité artistique tout de même, sans être tout à fait exceptionnelle, qui était tout à fait intéressante. Elle était pianiste, elle écrivait, elle a beaucoup écrit, etc. Et pas de biographie d'Adèle Hugo. Bon, donc vous comprenez la suite de l'histoire. Plutôt que de faire la 24e ou la 36e de Victor Hugo, j'ai fait la première d'Adèle. Et donc, c'est après, d'ailleurs, j'ai fait celle de Léopoldine, qui n'avait pas de biographie non plus, la fille aînée de Victor Hugo, bien connue. Et donc, j'étais à Montpellier à l'époque, et on me dit qu'il y avait des descendants Hugo qui habitaient Lunel, donc pas très loin de Montpellier. Donc, savez-vous, bon, tout à l'heure, on parlait du métier de biographe. On enlève un peu les ficelles de tout le monde. Hein. Donc, j'ouvre l'annuaire et je vois Adèle Hugo, Lunel, voilà, route de Sommières. J'appelle, elle me dit « Ah, mais bien sûr, venez, voilà, un soir, vous rencontrerez maman, je vous présenterai. » Donc, c'est comme ça que je suis entré, si on peut dire, dans l'intimité de la famille Hugo, et sans courir à Paris ou à Stockholm, mais c'était juste à côté de chez moi. Et j'ai rencontré Adèle. Alors, c'est un peu curieux parce que, de fil en aiguille, elle est arrivée à me donner une préface pour mon livre, ce qui fait que j'ai fait une biographie d'Adèle Hugo, préfacée par Adèle Hugo.
Excellent.
Sauf qu'il y a 3 générations de décalage. Mais enfin, c'est pour vous dire à quel point j'étais bien accueilli. J'ai rencontré sa maman, Loretta, qui en réalité, on va glisser vers Jean Hugo, est la veuve de Jean Hugo. Parce que Jean Hugo, moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Donc, ça vous explique comment l'histoire a démarré. Et puis, donc, biographie d'Adèle, biographie Léopoldine, très bien. Et puis, je suis passé à autre chose. Et quelques années plus tard, bien, on me dit, tiens, ces deux biographies étaient épuisées. Et Grasset, un jour, Grasset était au téléphone, l'éditeur parisien. Et il me dit, bon, on se compare à Hugo, c'est tout de même un sujet intéressant. Bon. Et c'est comme ça qu'avec mon excellent éditeur, on peut dire Charles Dantzig, on s'est attelé à ce travail, quoi, donc de balayer 5 générations en 18 portraits, et avec tout de même un fil conducteur qui est maintenant un peu au centre de mon œuvre, là, en tout cas pour l'instant et encore pour un moment, qui est ce qu'on appelle la transmission intergénérationnelle. C'est-à-dire que chez les Hugo, c'est très évident. Bon, ça, de nouveau, je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous regardez les biographies, les classiques ou reconnues de Victor Hugo, ça n'apparaît absolument pas. Mais en fait, quand vous regardez la lignée sur, dans mon cas, sur 5 générations, vous voyez qu'il y a des traits de personnalité, de caractère, des travers, des qualités, bon, qui se retrouvent de génération en génération.
Qui se reproduisent.
Parfois, ça saute une génération, ça se retrouve à la suivante. Donc, c'est ce qui nous intéressait, moi et mon éditeur, dans cette étude. Et donc, ça a fait l'objet d'un livre qui est en même temps... vous savez, il faut pas, je ne voudrais pas induire l'auditeur en erreur. C'est un livre qui se lit un peu comme un roman. Hein. Il y a beaucoup d'anecdotes. Ce n'est pas intellectuel, dis donc.
C'est ce qu'on expliquait en début d'émission. Qu'il y a une partie quand même toujours un peu romancée, mine de rien.
Voilà.
Les Hugo, donc, qu'on trouve aux éditions Grasset, 480 pages, 18 portraits. Et plus récemment, en 2018, vous publiez deux œuvres consacrées à Jean Hugo, donc chez deux éditeurs différents, pour le coup. Et un homme qui vous a profondément touché, alors de par son art, mais pas seulement, c'est l'homme en lui-même qui vous a touché. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Oui, Jean Hugo, effectivement, m'a beaucoup touché. Je l'ai découvert, comme je vous disais, là, je ne sais plus si c'était en 2000 ou en 2001, mais au moment où je suis entré chez lui, au Mas de Fourques à Lunel. Il était décédé depuis bientôt 20 ans à ce moment-là, mais les lieux étaient encore absolument imprégnés de sa présence. Quand on entre chez ses filles, parce qu'il faut savoir que ses 5 filles se sont partagées les communs de ce grand mas viticole, là, et y habitent, mais que vous entrez chez chacune d'entre elles ou chez sa veuve. Les murs sont couverts de ses tableaux, il y a des souvenirs de lui un peu partout, donc c'est ce qui m'a séduit, c'est-à-dire c'est le personnage qui a derrière ces souvenirs qui m'a séduit. Et pour l'illustrer peut-être...
Vous pouvez lire l'extrait que vous avez écrit. Vous avez écrit une lettre à Jean Hugo.
Voilà.
Dans une de ces deux œuvres. Donc vous pouvez...
À défaut d'avoir rencontré Jean Hugo, puisque je viens de le dire, quand j'ai commencé à vraiment le connaître, il était décédé depuis 20 ans, mais je rêvais tout de même de lui parler, à défaut de lui écrire. Et donc, j'ai eu ce livre, cette biographie, cette première, en fait, première biographie de lui que j'ai écrite, m'a donné l'occasion de lui envoyer une petite lettre. « Cher Jean Hugo, vous êtes d'une modestie extrême. » C'est ce que me disent ceux qui vous ont connu. C'est ce que vous disait votre camarade Picasso. Tu devrais montrer ta peinture. Tu n'es pas connu comme tu le mérites. Tu ne t'occupes pas assez de ta gloire. C'est ce que vous dites vous-même. En 1828, quand le poète Max Jacob voit l'humilité en vertu dominante dans les lignes de votre main, vous répondez « C'est la vertu que je désire le plus ardemment. » En 1966, à un journaliste qui vous demande quelle qualité vous souhaiteriez à vos enfants, vous répondez « le manque d'orgueil, l'humilité ». C'est aussi ce qui ressort de votre œuvre, de vos gouaches minuscules, de votre toile respectueuse de tout, de votre effacement devant vos sujets.
Une belle déclaration, quand même, à cet homme. Henri Gourdin, nous, on a pris contact, vous et moi, parce que du 14 juin jusqu'au 22 septembre, à la Bibliothèque Carré d'Art Jean Bousquet à Nîmes et au Musée des Beaux-Arts de Nîmes, il y avait une exposition consacrée à Jean Hugo, avec tout plein de ses œuvres. Alors, toutes n'y étaient pas, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette exposition qui était proposée à Nîmes pendant ces quelques mois ?
Je vais... Vous en parlez surtout en rendant hommage à la ville de Nîmes. Vous savez, la ville de Nîmes n'est pas très loin de Lunel. Donc Jean Hugo était très souvent à la fois à Nîmes et à Montpellier. Et la ville de Nîmes, et en particulier l'adjoint au maire, M. Valade, est très attaché à la personne de Jean Hugo, qu'il a connu, contrairement à moi. Et donc c'est un projet qui était dans le tube depuis très longtemps et qui finalement, grâce à l'opiniâtreté à la fois de la ville de Nîmes et de quelques Nîmois mordus de Jean Hugo, a vu le jour sous forme de deux expositions. C'est jusqu'au dimanche, là, jusqu'au 22. L'une au Musée des Beaux-Arts sur le thème du paysage dans son œuvre, l'autre à laquelle j'ai participé plus activement au Carré d'Art sur Jean Hugo, illustrateur. Parce que Jean Hugo, pour en résumé, s'est exprimé à travers tous les vecteurs qui étaient à sa disposition, à la fois par l'écriture, la peinture de chevalet, la miniature, le dessin, le vitrail, le croquis, le décor de théâtre, la gravure. Ouais. Et notamment, on a choisi un peu, bon, parce qu'en fonction des collections qu'on avait sous la main, on a choisi avec la ville de Nîmes, au Carré d'Art, de privilégier, de montrer son œuvre en tant qu'illustrateur. C'est d'ailleurs la première exposition personnelle consacrée à Jean Hugo, illustrateur.
Une exposition qui se termine donc. Et nous avons pris contact à ce moment-là, vous et moi, pour caler cette émission. Du coup, on avait fait une première interview pour parler de l'exposition. Mais aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur l'homme. Et vous avez aussi publié en 2018, la même année, Jean Hugo, maître du vitrail. Donc Jean Hugo qui était un petit peu touche-à-tout, vous venez de le dire, mais qui possédait un don particulier pour cet art. Il y a 4 sanctuaires en France et un en Belgique qui possèdent des œuvres réalisées par Jean Hugo, dont un qui se trouve assez proche de chez nous, en Aveyron, sur la commune de Nantes. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 3 vitraux qui sont à Nantes, pas très loin ?
Ah oui, il faut conseiller d'ailleurs à nos auditeurs
d'aller les voir.
Oui, parce que c'est pas très loin. C'est vous y êtes allé, vous ?
C'est oui, j'y suis allé.
Moins d'une heure de route de Saint-Hippolyte, une bonne heure.
Une heure et demie.
Bon.
Une heure et demie. Mais il y a plein de choses à voir à Nantes, de toute façon.
Bon. Donc oui, c'est la dernière œuvre au vitrail de Jean Hugo, chronologiquement. Il a commencé par une abbatiale à Huy, en Belgique, en 1936. Et là, ses vitraux pour Nantes, il les a produits l'année avant sa mort, en 1983. Et en fait, c'est un détail de chronologie, mais ils n'ont été posés qu'après sa mort, parce qu'il y avait pas mal de difficultés, comme toujours, par rapport au patrimoine, par rapport à l'administration, etc. Donc, Jean Hugo a vu ses vitraux terminés, mais pas en place encore dans le cœur de l'église de Nantes. Et s'il y a un conseil à donner aux auditeurs qui veulent découvrir la personnalité de Jean Hugo, il y a 2 solutions. Ou bien ils entrent dans une librairie, ils achètent 2 livres. Ou bien, parce qu'il ne faut pas... pour vous montrer mon désintéressement par rapport à Jean Hugo, ou bien il faut prendre sa voiture, ou son vélo peut-être, ou peut-être ses 2 jambes, hein, et aller en Nantes à travers les paysages magnifiques qui séparent Saint-Hippolyte de Nantes. Se planter même dans le narthex, tout au début de l'église, et regarder ces vitraux qui parlent d'eux-mêmes, c'est magnifique. Alors comme c'est un peu une constante de l'œuvre de Jean Hugo pour le vitrail, la paroisse et la ville et le maire de Nantes lui ont laissé carte blanche pour l'inspiration de ses compositions. Il y avait 3 fenêtres à garnir. Et il a choisi d'illustrer la vie de Saint-Pierre. Voilà.
Parce que Jean Hugo, vous ne l'avez pas évoqué encore, était quand même quelqu'un d'assez pieux.
Il est devenu pieux, oui, moment de... Ça fait partie de la charnière entre sa vie parisienne, où il était complètement agnostique, comme son arrière-grand-père, comme toute sa famille sur plusieurs générations. Et en arrivant à Lunel, il a eu une crise mystique, on peut dire. Et il est devenu chrétien, catholique. Et à compter de ce jour, il est allé à la messe tous les jours, la grand-messe tous les dimanches. Enfin, il est devenu très pieux. Voilà.
Et donc, c'est ces 3 vitraux à Nantes qui racontent la vie de Saint-Pierre.
Oui, d'ailleurs, comme les vitraux de Huy racontent la vie de la Vierge, comme les vitraux de Fanjeau racontent la vie de Saint-Dominique, enfin, c'est un peu une constante de son œuvre pour le vitrail, on va dire. Mais ceux de Nantes sont particulièrement réussis. D'une part parce que c'est la fin de sa carrière, donc il a à ce moment-là, oui, de 36 à 84, il a presque un demi-siècle de pratique du vitrail derrière lui, parce qu'il y a un maître verrier qui a très bien compris son esprit, donc qu'il a bien rendu, et puis parce que, faut dire aussi, attendez, il faut dire que Jean Hugo, on l'a un peu évoqué, là, en 1929, est venu se fixer à Lunel, donc dans son mas de Fourques, en Petite Camargue. Et bon, il y a vécu jusqu'en 84, donc ça fait plus d'un demi-siècle. Mais sur le tard, après la Deuxième Guerre, là, après à partir des années 50, le pays a été complètement transformé par l'arrivée de l'autoroute, le bétonnage du littoral, donc ça lui plaisait. Moyennement. Et puis avec l'âge, il supportait un peu moins les chaleurs de l'été. Donc voilà, il est allé dans un premier temps louer un presbytère là-bas à Nantes, sur le territoire de la commune de Nantes. Et puis très rapidement, il a acheté un mas qui n'est pas dans le centre de Nantes, mais qui est tout à fait dans un vallon, la vallée d'Urzon, voilà. Oui, il passait au moins 3 mois par an. Donc, ce n'est pas par hasard qu'il est allé composer ses vitraux pour l'église Saint-Pierre de Nantes, qui est une très belle
église romane. Dont il a fait don, d'ailleurs.
Il a fait don de ses
vitraux. De ses trois vitraux. Et il y a quelque chose de... Quand on entre dans cette église, on ne voit pas tout de suite les vitraux, parce qu'ils sont tout au fond. Alors, je ne suis pas une experte en architecture d'église, mais on voit la lumière, en fait. Et il y a cette particularité, parce qu'il y a d'autres vitraux dans l'église de Nantes, mais ceux-là sont extrêmement lumineux. Alors, pas uniquement du fait de leur position, c'est les couleurs qui en ressortent, où c'est chaleureux. Les autres ont cette tendance plus froide, qui est, en tout cas, moi, m'a beaucoup moins inspirée que ceux de Jean Hugo qui brillent, en fait. Alors qu'il n'y en a qu'un seul qui reçoit vraiment la lumière du soleil en permanence, et les autres sont plus dans l'obscurité, et malgré tout, ils brillent.
Oui, tout à fait. Mais écoutez, je pense qu'on a fait un bon travail. J'ai peut-être mal placé pour recommander mon livre, mais bon, c'est un livre, vous savez, Henri Gourdet, il y est pour très peu dans ce livre. C'est un livre où il n'y a que des images des vitraux de Jean Hugo, avec un peu de commentaires. Donc l'impression qu'on a à Nantes, Nantes ou Nantes, enfin bon, peu importe.
Oui, j'ai jamais trop su comment est-ce que ça se prononçait.
On a un peu la même impression, bien que sur des thèmes tout à fait différents, dans chacun des sanctuaires qu'il a décorés. Et donc, dans le livre, qu'en plus, c'est une excellente édition de la Maison Loubatière, des photographies excellentes de mon ami Frédéric Povarel, qui est un spécialiste non seulement de la photographie du patrimoine, mais de la photographie du vitrail. Donc, voilà, on a aujourd'hui, d'ailleurs c'était mon but et j'en suis vraiment très très heureux, on a aujourd'hui, pour la première fois, le moyen d'entrer, ne serait-ce que dans un petit volet, mais enfin d'entrer dans l'œuvre de Jean Hugo, parce qu'il n'y a aucun autre livre sur son œuvre.
Et quelque chose d'autre qui m'a beaucoup marqué en allant visiter cette église, c'est qu'à aucun moment donné, on ne sait que c'est Jean Hugo qui a réalisé ses vitraux. Ce n'est mis en avant nulle part. Alors, on a parlé de l'humilité de cet homme, mais je m'attendais à trouver une petite griffe, un petit mot quand même qui explique l'histoire de ses vitraux, et c'est totalement invisible. On ne sait pas.
C'est très dommage. Si vous avez une manière de le savoir, c'est de vous inscrire à la visite guidée de mon ami Alain Bonnemer, qui lui est un fan de Jean Hugo, enfin des vitraux de Jean Hugo, on en parle, mais bon, il fait... 3 visites par mois, alors il faut tomber dessus. Non, ben là, ça va nous amener trop loin, mais on aborde, on tangente le sujet de l'appui du politique aux valeurs culturelles.
Ou de l'humilité de cet homme aussi, qui ne s'est jamais mis en avant. Vous avez cité des phrases de Picasso tout à l'heure qui le lui disait, qui le lui reprochait, tu ne mets pas en avant ton talent.
Tu devrais montrer ta peinture, tu n'es pas connu comme tu le mérites.
C'est quand même, donc Picasso avait cette fierté, il était conscient de... Ça montre des traits de caractère qui sont quand même assez différents. Est-ce que Victor Hugo, lui aussi, avait plutôt tendance à tirer vers Picasso que vers son descendant Jean Hugo ?
Oh, Victor Hugo !
Je savais que cette question allait vous plaire.
Ben moi, j'ai beaucoup d'admiration pour l'œuvre de Victor Hugo, comme tout le monde, une très grande admiration même. Mais ben, on parlait tout à l'heure de montrer la vérité derrière la légende. Bon, on pense que parce que Victor Hugo était un grand poète, un grand romancier, bon, qu'il était parfait. Non, justement, je me suis, à travers la reconstitution de la vie de sa fille Adèle, de la vie de sa fille Léopoldine, c'était un tyran domestique. Mais alors, aujourd'hui, Victor Hugo, si on pouvait, un homme comme Victor Hugo, indépendamment de son œuvre, mais il serait mis au tribunal hein, pour la façon dont il se comportait vis-à-vis de ses enfants, pas seulement ses filles d'ailleurs. Il a eu 4 enfants, il a cassé tous les 4. Voilà. Bon, on n'ira pas plus loin. Mais encore une fois, hein, pour ne pas être accusé de lèse-majesté, ça n'enlève rien à la qualité et à la grandeur de l'œuvre de Jean Hugo. Mais on devrait
de
pouvoir...
De Victor Hugo.
Ah, pardon.
Oh là 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 là.
Pardon, de Victor Hugo. Mais aujourd'hui, combien ça fait bien plus de 2 siècles après sa mort. On devrait pouvoir dire que Victor Hugo, tout en étant génie de la poésie et de la littérature, était aussi un père déplorable. Bon, ça n'est pas incompatible.
On ne peut pas être bon partout.
Voilà.
Merci beaucoup Henri Gourdin. Je vous propose qu'on fasse une nouvelle pause en musique, toujours en compagnie de Eric Satie avec les Gymnopédies numéro 2. Et on se retrouve juste après. Eric Satie, Gymnopédie numéro 2. Nous sommes toujours à la rencontre de Jean Hugo en compagnie de Henri Gourdin sur Radio Escapade. Henri, on n'aura jamais le temps, évidemment, de parler de la vie, des œuvres de Jean Hugo. C'est pourquoi on rappellera un petit peu les références des deux biographies que vous avez rédigées pour lui. Et pour l'instant, est-ce qu'on pourrait parler un peu des illustrations de Jean Hugo dans le panel de ce touche-à-tout.
Oui, qui est l'objet donc, de la première exposition personnelle de Jean Hugo au musée de...
Au Carré d'Art à Nîmes. Voilà. La bibliothèque de Nîmes.
Voilà. Je pense que ça lui ferait plaisir, Jean Hugo, d'être, même si c'est seulement sur un volet de son œuvre, d'être là dans ce très beau bâtiment qu'est le Carré d'Art, juste en face de la Maison Carrée. Enfin, c'était un enchantement pour moi aussi, qui est passé non seulement des heures, mais des journées. Et oui, donc comme illustrateur, déjà, entendons-nous sur les termes illustrateur, c'est-à-dire que Jean Hugo a illustré de gouache, d'aquarelle, de gravure, enfin de différents médias, une centaine de livres. Mais attention, on parle, quand on parle d'illustrateur, c'est pas, on ne parle pas de BD, là. On parle de livres rares qui sont tirés en tirage limité. Ça va de parfois de 2 exemplaires au maximum. Pour Jean Hugo, maximum, c'est 5 ou 600 exemplaires, mais c'est le plus souvent autour de 100 ou 200 exemplaires, voilà. Pourquoi ? Parce que l'illustration, elle est sur des supports qui ne se prêtent pas à de la reproduction en grande masse. Donc voilà, c'est un livre de bibliophile. On est là dans le domaine de la bibliophilie. Donc il a illustré une centaine de livres précieux, on va dire. Mais tout de même, en commençant par Francis Jam, le poète Francis Jam, à l'époque où il était encore parisien avec Valentine. Il y a des anecdotes sur chacun de ces 100 livres, donc je ne peux pas... Là, on n'a pas le temps de tout raconter, mais vous en avez quelques-unes pour ceux qui ont la chance d'aller voir l'exposition au Carré d'Art encore. Et ensuite, il a tout de même illustré... dans les années 30, il a illustré Stevenson. Tiens, parlons-en, puisqu'on est dans le Gard ici. Voilà. Ben, il se fait que c'est très peu connu aussi. Ben voilà, on parlait de la légende tout à l'heure. Ben, tout le monde sait que Robert Louis Stevenson a voyagé dans les Cévennes avec Modestine, avec un âne. Voilà. Et qu'il en a donné un récit dans un livre qui s'appelle « Voyage à travers les Cévennes avec un âne ». Et on sait beaucoup moins, ou peut-être pas du tout, que, en fait, juste un an plus tôt, il a fait un voyage également. Là, c'était pas en âne, mais c'était en canot avec un de ses amis anglais. Il s'était donné le défi d'aller uniquement par des canaux et des rivières, de descendre d'Anvers à l'embouchure de l'Escaut en Belgique jusqu'à Pontoise, dans la banlieue parisienne. Ils l'ont fait. Il en est résulté un récit très succulent, d'ailleurs, dans la veine un peu de voyage dans les Cévennes, un récit succulent de Stevenson qui s'appelle, en anglais, puisque c'est un inland voyage, donc une croisière, on peut dire croisière à l'intérieur des terres. Et il y a un éditeur américain qui, en 1935, a demandé à Jean Hugo d'illustrer ce livre. Pourquoi Jean Hugo ? Parce qu'il était un peu connu déjà comme illustrateur, parce qu'il était parfait bilingue, etc.
Et qu'il a un univers quand même assez extraordinaire.
Voilà, et puis il savait, pour pénétrer l'œuvre de Stevenson, il était vraiment bien placé. Je pense que ce que l'éditeur a dû comprendre. Mais Jean Hugo, alors c'est peut-être une anecdote, mais ça montre un peu, comme je ne peux pas parler de 100 livres, j'essaie de faire comprendre comment il s'y prenait. Jean Hugo, vous savez, les gens, les illustrateurs autour de lui, comme Picasso, Braque, etc., auraient pris le texte dans leur atelier, puis ils auraient commencé à dessiner. Jean Hugo, non. Jean Hugo, d'abord, il s'imprègne du livre en anglais de Stevenson et il a refait le parcours de Stevenson sur les eaux comme lui. Donc, alors, et puis c'est intéressant à double titre, c'est que d'une part, il en a sorti, dans le livre de Stevenson est structuré en, je crois que c'est 28 étapes, donc 28 chapitres pour 28 étapes. Et Jean Hugo, il a produit donc 28 gouaches, voilà, correspondant chacune à une étape. Et je disais, ce qui est intéressant, c'est que comme Jean Hugo, c'est un peu le fil conducteur de ma biographie, Jean Hugo, un pays selon mon goût, il était non seulement écrivain, il était non seulement peintre, mais il était ce que j'appelle peintre-écrivain. C'est-à-dire qu'il a toujours, il exprimait lui ce qu'il avait sous les yeux, mais également lui sous deux vecteurs qui sont l'écrit et la peinture, la plume et le pinceau. Et ce qui est intéressant dans l'Inland Voyage, c'est qu'on peut mettre en vis-à-vis les illustrations que Jean Hugo a données pour chacune des étapes et les notes qu'il prenait le soir au cours de son propre voyage sur les traces de Stevenson. Ça, c'est un des 100 livres. Voilà.
Un des 100 livres, ça fait beaucoup. Jean Hugo, donc, qu'on ne pourra pas faire le tour entier aujourd'hui, mais Henri Gourdin, vous avez un site internet très bien fourni, avec toutes les biographies que vous avez pu faire et donc évidemment le zoom sur Jean Hugo. On y retrouve aussi différents essais que vous avez essayés, où vous ne faites pas que de la biographie. Et puis vous ne vous êtes pas concentré que sur les Hugo, il y en a eu d'autres. Est-ce que vous pourriez en citer certains de ces gens méconnus dont vous avez raconté l'histoire, la vie, pour pas que ça sombre définitivement dans l'oubli?
Oui, bah écoutez, j'ai ici sous les yeux, dans les premières pages de mon livre, la liste de mes œuvres. Là, j'ai commencé par Eugène Delacroix et Alexandre Pouchkine, le poète russe. J'ai eu beaucoup de prix pour ma biographie de Pouchkine. Bon, on va savoir pourquoi. J'ai fait aussi un personnage qui parle au gardois, c'est Olivier de Serres, père de l'agriculture. Oui, Olivier de Serres, c'est... Oui, ce n'est pas vraiment de votre âge.
Non, mais ce n'est pas une raison.
C'est un contemporain d'Henri IV.
Oui.
Et il est considéré comme le premier agronome français. C'est lui qui a réintroduit des pratiques culturelles qui avaient été perdues dans les siècles de guerre civile et de guerre de religion avant l'arrivée d'Henri IV sur le trône de France. Ensuite, j'ai fait Jean-Jacques Audubon. Ça, je suis très fier de ma biographie de Jean-Jacques Audubon.
Je ne sais pas qui c'est non plus.
Alors,
ma culture va en prendre un coup.
Jean-Jacques Audubon est considéré comme le père de l'écologie. Pourquoi ? Parce que je vous la fais brève encore, mais il s'est retrouvé en Amérique du Nord, aux États-Unis, à l'époque de la conquête de l'Ouest. Et il a été le premier... ça, c'est un peu fascinant, ce genre de personnage. Alors que tout autour de lui, c'était évident qu'on progressait vers l'ouest, on détruisait les Indiens, on détruisait les forêts, c'était comme ça. Et personne n'y voyait rien à redire. Et c'est Audubon, qui était français d'ailleurs. On ne sait pas pourquoi, dans sa tête, quelque chose. Il a dit, il se passe quelque chose qu'on va regretter. Voilà. Après, je vous passe les détails, mais c'est ce qui fait que, entre-temps, quand les écologistes, tout premiers écologistes américains ont commencé à se structurer, eh ben, ils l'ont pris comme emblème et c'est ce qui fait sa notoriété. Bon, après, il y a la série des Hugo et le Grand Pingouin.
Oui, je voulais vous en parler de cet essai. Une biographie du grand pingouin.
Ouais, voilà, j'ai fait la biographie d'un oiseau. Mais c'est-à-dire que j'ai pris une espèce, c'est une espèce disparue, hein, le pauvre grand pingouin. Alors, c'est le premier oiseau disparu du continent européen. Le seul toujours à ce jour. Ça va pas plus pour longtemps parce qu'il y a des espèces qui sont en voie de disparition tellement avancées que c'est inéluctable. Mais donc, le grand pingouin est le premier à avoir disparu. Je l'ai connu par Audubon. C'est Audubon qui m'a fait connaître le grand pingouin. Il était déjà mort un peu comme Jean Hugo. Il était mort depuis longtemps quand je me suis intéressé à lui. Mais donc, j'ai fait la biographie d'une espèce puisque j'ai pris les premières attestations. Ça remonte à la préhistoire. Je pense de mémoire, je dirais en 250 000 avant Jésus-Christ. Et par contre, la date
moins
n'est pas vraiment...
Moins 500 000.
Combien vous dites ?
Moins 500 000.
Moins 500 000, oui. Bon. La première attestation archéologique, hein, le premier os de grand pingouin ou fragment d'os qu'on ait retrouvé, qu'on attribue sans hésitation au grand pingouin. Et je suis allé jusqu'au 14 avril 1851, qui est la date où le dernier a été abattu. Voilà. Et ensuite, j'ai fait autour de Audubon, j'ai tout de même fait donc, ce grand pingouin, et puis j'ai fait Les oiseaux disparus d'Audubon, qui est un beau livre à la Martinière sur c'est triste à dire, mais sur les espèces qu'Audubon a décrites, qu'il a vues, et puis qui ont complètement éteintes entre-temps. Quoi. Et puis j'ai beaucoup tourné autour de Pablo Casals, cher Pablo, qui était considéré comme le violoncelliste du XXe siècle, mais qui était aussi, s'il n'avait été que musicien, je n'ai peut-être pas le bagage pour en parler, mais il était aussi un des principaux opposants à Franco.
Ce qui n'est pas rien.
Voilà. Donc là, j'ai fait sa biographie, deux romans qui le mettent en scène, la biographie d'une femme cachée, Ouais, vous voyez, on parlait tout à l'heure de la légende de la vérité. J'ai découvert dans mes recherches que Casals avait été pratiquement marié pendant 10 ans à une femme qui était une excellente violoncelliste portugaise, qui était le grand amour de sa vie.
C'était la violoncelliste alors.
Voilà, la violoncelliste.
Parce qu'il y a beaucoup d'hommes au final que vous avez choisis, mais les femmes arrivent quand même dans vos choix de biographie.
Il y a tout de même Adèle, il y a Léopoldine, il y a Suggia qui était cette femme de Casals. Et le grand pingouin, c'est mâle et femelle tout de même.
Tout de même. Henri Gourdin, donc, il y a ce site internet que j'invite vivement les auditeurs à aller voir, henrigourdin.com, où on retrouve toute votre biographie, on retrouve un petit peu tout. Et il paraît que vous avez déjà des projets à venir pour 2020-2021. Quelles seront vos prochaines œuvres, vos prochaines biographies?
Ah, il faut que je révèle alors.
Oui, c'est le moment de nous dire ce qui arrive.
Ben, j'hésite un peu, mais je vais vous dire qu'en fait, là, je ne vais pas vous parler de projets lointains parce que je ne sais pas trop, mais il y a un livre qui a... Vous savez, le livre, c'est, il y a un auteur derrière le livre, mais il y a aussi toute une machine de production. Alors là, j'ai un livre qui va sortir en 2020, mais qui pour moi, donc je pense, je ne sais pas, au printemps 2020, peut-être chez Grasset à nouveau, où j'ai donné les Hugo. Mais qui, pour moi, est terminé depuis plus d'un an. Oui, entre le moment où vous rendez la copie définitive, il faut que vous entrez un livre dans le tube et il faut attendre qu'il ressorte de l'autre côté du tube. Donc, c'est un livre qui s'appellera « Les héritiers ». Et je vous remercie finalement de me mettre un peu, de me donner l'occasion d'en parler parce que, donc, on a pris avec mon éditeur Grasset, dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai commencé par examiner à peu près 200 lignées d'artistes et d'écrivains célèbres langue française d'une façon ou d'une autre. Et parmi ces 200, on en a choisi 20. Donc, 20 écrivains et artistes célèbres. On commence par Montaigne et on termine par Simenon. Vous voyez que le spectre chronologique, il est assez large. Et chaque fois, j'ai d'abord reconstitué la généalogie, en commençant peut-être aux parents, une ou deux générations avant, mais surtout les générations après.
Qui suivent.
Voilà. Et un peu dans l'esprit de Les Hugo,
dont on a beaucoup parlé
tout à l'heure. Eh bien, j'examine quelles sont les relations entre l'artiste et l'écrivain, le créateur célèbre, et sa descendance, mais parfois sur deux, parfois sur trois. Simenon, on est encore à la troisième génération, donc on s'arrête là. Mais Montaigne, il y a 24 générations, vous voyez, donc c'était un gros travail de recherche, c'est vrai. Mais en fait, c'était surtout pour essayer de voir des lignes directrices, comment se comporte un héritier. On a autour de nous, on a des exemples. Les exemples les plus connus, c'est Johnny, c'est Picasso, les scandales. Bon, je suis pas parti sur cette voie-là, mais donc il y a tout de même le fait d'être héritier d'une grande personnalité. C'est pas évident du tout même. Et bon, je vais vous dire, en fait, c'est mon histoire avec Jean Hugo qui m'a mis sur la piste
sur
des
la
héritiers,
voie.
Parce que là, alors. Sans entrer dans les détails, mais la relation avec les enfants de Jean Hugo est tellement compliquée que je me suis interrogé. Puis j'y suis resté des années et des années à jamais avoir aucun appui, aucun soutien, des bâtons dans les roues constamment. Si cette biographie et ce livre sur les vitraux sont sortis cette année, si c'est la première biographie et le premier livre sur l'histoire d'une personnalité, d'un peintre, d'un écrivain exceptionnel, ben, c'est pas par hasard, c'est parce qu'il y a trop d'obstacles, quoi. Moi, j'ai simplement été un peu plus opiniâtre que les autres. Voilà. Donc, cette attitude des héritiers m'a interpellé. Je me suis demandé à quoi ça tenait, pourquoi. Bon, de nouveau, il ne s'agit pas de jeter la pierre, hein, d'accuser n'importe quoi, mais je me suis rendu compte à cette occasion que d'hériter dans la descendance d'un personnage... Ce n'est pas toujours facile.
Ouais,
pas facile.
C'est à découvrir, du coup, bientôt, aux éditions Grasset, Les Héritiers, avec Henri Gourdin, du coup. HenriGourdin.com aussi, vraiment, je vous invite à y aller et à découvrir l'histoire de la vie, les œuvres de ce Jean Hugo et d'autres qui sont racontées par Henri Gourdin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'est la fin de cette émission, Henri. Et on va se quitter avec, encore une fois, Eric Satie. Et je ne retiens vraiment pas ce mot, les gymnopédies numéro 3. Est-ce que vous voulez le mot de la fin, Henri Gourdin?
Oui, je veux le mot de la fin. rentrez dans. Malheureusement, il n'y a qu'une façon d'y entrer. Maintenant, j'allais dire entrer dans la personnalité de Jean Hugo. C'est un homme qui vaut vraiment le détour, qui vous donnera à la fois du plaisir et de l'instruction. Et malheureusement, il n'y a qu'une façon d'y arriver aujourd'hui. Bon, il y avait les expositions de Nîmes qui se terminent. Ben, il y a mes deux livres, ma biographie et mon livre.
Pouvez-vous rappeler les deux titres ?
Oui, la biographie aux éditions de Paris Max Chaleil, c'est Jean Hugo, Un pays selon mon goût. Alors ce sous-titre est tiré d'une citation de Jean Hugo. Hein, il dit lui-même que son objectif en tant que peintre et en tant qu'écrivain, c'est de décrire un pays qui n'est pas nécessairement le pays réel qu'il a sous les yeux, mais un pays imaginaire qui est son monde esthétique et artistique. Voilà. Et aux éditions Loubatière, un livre illustré, là, avec un peu de texte et beaucoup d'images, Jean Hugo, maître du vitrail.
Merci beaucoup, Henri Gourdin.
Mais c'était un grand plaisir pour moi.
Et bonne continuation à vous, puis j'espère qu'on vous retrouvera à nouveau dans nos studios.
Merci.